RFI 7h42 en temps universel. Et RFI Matin, suite et fin, un nouveau journal dans 18 minutes, la Serbie à la une. Alors que ce matin, les jeunes, la société civile et les agriculteurs manifestent à nouveau contre la corruption et pour un état de droit, leur mouvement s'étend. Depuis quelques semaines et la mort de 15 personnes dans l'effondrement du toit d'une gare, on retrouvera Laurent Rouy à Belgrade. À la une également du prochain journal, la Syrie et un nouveau chapitre dans les relations entre Damas et la Jordanie. Amman vient d'envoyer un convoi d'aide humanitaire pour son voisin. On parlera aussi de l'intelligence artificielle et de son énorme consommation d'électricité. À suivre d'ici là notre tour du monde des correspondants, à deux jours de Noël, trois pays et trois façons de le fêter. Et puis tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous Christophe Diremzian, du football et la suite du deuxième tour aller des éliminatoires du CHAN 2025. Journée marquée par deux bonnes opérations à l'extérieur.
Ça sent bon effectivement pour l'Angola, notamment vainqueur du Lesotho 2-0, même résultat pour Madagascar. En déplacement à Eswatini, ça reste ouvert. En revanche, pour les deux autres matchs disputés hier, 0-0 entre la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, et un partout à Abidjan entre le Tchad et la RDC. Sachez également que la première manche du match Burundi-Ouganda n'aura finalement lieu que jeudi, et que la Zambie est directement qualifiée pour la phase finale du CHAN après le retrait du Mozambique.
8 nouvelles rencontres au programme aujourd'hui.
On va commencer par le match des tenants du titre. Les Sénégalais opposés au Liberia à 16h, temps universel. Il y a aussi Centrafrique-Cameroun, délocalisé comme Tchad RDC à Abidjan. Simplice Sow, le sélectionneur des Camerounais à prime, semble très confiant. Il veut d'ailleurs faire les choses vite et bien.
Nous sommes préparés dans de très bonnes conditions. En matière de football, le Cameroun est leader et les joueurs sont conscients, nous sommes tous conscients et il faudrait que nous maintenions notre place de leader dans la sous-région. Nous souhaitons nous qualifier au match aller, parce que nous voulons mettre tout en place pour ne pas avoir des surprises. Ça, elle n'est pas venue en victime résignée, mais nous allons essayer de tout faire pour avoir le bon résultat à Abidjan. Nous avons une petite idylle dans la RCA. Nous savons qu'ils ont un championnat qui a commencé avant nous. Certains d'entre eux qui jouent dans leur équipe A. Donc nous nous sommes préparés en conséquence et nous espérons que ce que nous avons préparé va porter des fruits.
Propos recueillis par Joël Wadem, Centrafrique-Cameroun, qu'on envoie 19h TU.
Également au programme, trois matchs concernant la zone Afrique de l'Ouest.
Togo-Niger, Ghana-Nigeria et Côte d'Ivoire-Burkina Faso, des étalons prêts autant que possible à réaliser un bon résultat face aux éléphants qui leur avaient barré la route du dernier CHAN. Molemine Sissavani.
Arrivé jeudi soir à Abidjan, l'équipe nationale A' de Burkina Faso a effectué un stage au Niger où elle s'est mesurée à deux reprises au MENA local. Une victoire et un nul pour les étalons au cours d'un stage pas évident. Le coach Issa Balboné.
Avec le championnat qui se jouait chaque trois jours, on ne pouvait pas avoir les joueurs pour la préparation. Nous avons eu peut-être deux jours, trois jours dans la semaine avant de partir au Niger, faire deux matchs et revenir à Abidjan ici.
Abidjan à l'aller, puis Bamako au retour en raison des stades non homologués au Burkina Faso. Mais Issa Balboné n'a pas l'impression de jouer deux fois à l'extérieur.
Au football moderne, il n'y a pas de match à l'extérieur. Tous les matchs sont des matchs très importants. Ça fait près de 5 ans que nous jouons dehors, donc nous sommes habitués maintenant et je pense que ça ne va rien changer au football burkinabé.
L'absence des Burkinabés au dernier CHAN après une défaite contre les Ivoiriens, qui les avaient ainsi privés de la compétition, ne change rien non plus pour le coach.
Nous n'avons pas parlé de l'élimination du Burkina face à la Côte d'Ivoire. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est le présent qui nous intéresse. Aujourd'hui, le football ivoirien atteint un certain niveau, mais nous allons tout faire pour battre cette équipe de Côte d'Ivoire.
Pour réaliser ce résultat, Issa Balboné, qui a vécu 15 années à Abidjan, compte sur ses compatriotes qu'ils sont ici nombreux. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Côte d'Ivoire, Burkina Faso, 16h, temps universel. Les trois autres matchs de la journée, Mauritanie, Mali, Éthiopie, Soudan et Soudan du Sud, Rwanda. Toujours en football, mais en club. Cette fois, un match décalé de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les tenants du titre, les Égyptiens d'Al Ahly, deuxième du groupe C derrière les Sud-Africains d'Orlando Pirates, reçoivent les Algériens du CR Belouizdad à 16h, temps universel.
Merci Christophe Diremzian, bonne journée à vous.
RFI Matin.
De la crèche au sapin, du gui à la couronne de l'Avent, du hou à la bûche, c'est dans quelques jours. Noël est l'une des fêtes les plus riches en symboles, sacrés comme profanes. Trois exemples dans notre tour du monde des correspondants ce matin. Trois manières de fêter Noël, à commencer par les États-Unis et New York qui s'illuminent chaque fin d'année. L'un des symboles de Noël dans la grosse pomme, c'est bien sûr le grand sapin du Rockefeller Center. Une tradition qui dure depuis près d'un siècle, Loubna Anaki.
Oui, 92 ans pour être exact. Et pour la petite anecdote, cela a commencé alors que le Rockefeller Center n'existait même pas encore. Ce sont les ouvriers qui participaient à la construction du fameux bâtiment qui ont souhaité apporter un peu de joie et d'esprit de Noël au site durant la Grande Dépression. Et ce premier sapin était d'une taille normale. Ils l'ont décoré avec des guirlandes en papier, des fruits et même des boîtes de conserve. Et oui, rien à voir avec le sapin d'aujourd'hui. Les Américains, on le sait, aiment faire les choses en grand. Et au fil des années, le sapin du Rockefeller Center est devenu gigantesque. Et la cérémonie d'illumination marque désormais le début de la saison des fêtes ici. L'arbre est choisi avec soin sur le territoire américain. Et c'est toute une organisation pour le transporter jusqu'à New York. Une fois, il est même venu du Canada voisin. Cette année, il mesure 23 mètres de haut, pèse 11 tonnes. Et il faut 50 000 lumières multicolores pour le décorer. C'est 8 km de fil en tout. Et il faut savoir qu'une fois les fêtes terminées, eh bien, le sapin est donné à une organisation qui utilise le bois pour construire des maisons pour des familles défavorisées.
Loubna Naki aux États-Unis, où entre 25 et 30 millions de sapins de Noël sont vendus chaque année. C'est moins le cas en Grèce, où le conifère n'a pas le monopole des décorations. Une tradition parallèle, loin d'être marginale, consiste à illuminer, voire enguirlander, un bateau à voile, qu'il soit miniature ou grandeur nature, dans l'un des nombreux ports du pays historiquement tournés vers la mer, Joël Bronner.
Si vous passez place Syntagma, au cœur d'Athènes, vous verrez, sans grande surprise, un sapin géant comme symbole de cette période de Noël et de ses festivités. Cette nouvelle tradition s'est progressivement implantée, il y a 200 ans, à la naissance de la Grèce moderne, pour totalement s'imposer au courant du siècle dernier. Mais dans le pays, l'originalité, c'est qu'il y a en effet une autre tradition séculaire qui continue à coexister avec celle du sapin, celle de décorer des caravakia, c'est-à-dire des petits bateaux. La genèse exacte de cette coutume populaire reste nébuleuse, mais elle date d'une époque où la majorité des familles de la région comptaient un ou plusieurs marins dans leur rang. Certains évoquent une possible offrande à Saint-Nicolas, le protecteur de ces marins, d'autres un hommage aux travailleurs retenus en mer et absents des festivités de fin d'année. Une chose est sûre, c'est la géographie de cette région côtière, associée au poids économique majeur des métiers de la mer, qui en est à l'origine. Et de nos jours, les bateaux sont toujours un symbole fort, puisque la marine marchande grecque reste l'un des piliers économiques du pays.
Joël Bronner à Athènes pour RFI. Et puis dernière étape au Tchad, où l'on fête aussi Noël, même si l'islam est la religion majoritaire du pays. La communauté chrétienne y est aussi largement présente, en particulier les catholiques et les protestants. Alors N'Djamena, la capitale où les religions cohabitent, Noël est surtout la fête des enfants et du partage, Nadia Ben Mafoud.
Les enfants se retrouvent entre cousins, tous vêtus de nouveaux habits achetés pour l'occasion. Ils reçoivent des cadeaux de leurs parents et en distribuent aux plus démunis. Dans certains quartiers, les enfants font la tournée des maisons du voisinage pour recevoir des gâteaux de Noël, des sortes de cakes tressés préparés quelques jours avant le 24 décembre. Pour ce qui est du repas de Noël, les familles qui en ont les moyens sacrifient un animal chez eux, un mouton, une chèvre ou encore un porc. Chacun égorge ce qu'il peut selon son budget. Un dîner en famille est organisé autour de ce grand méchoui. Certains invitent même leurs voisins et amis musulmans à partager ce moment avec eux. Et puis la décoration est un élément très important. Dans les salons, on retrouve des sapins, des guirlandes, des ballons colorés, tout ce qu'il faut pour égayer l'intérieur et insuffler une ambiance de fête, mais presque aucun signe du Père Noël. Considéré comme une figure païenne et symbole du monde consumériste, il est banni des lieux de culte catholiques et protestants. Le soir du 24, après le dîner, chacun se dirige vers son lieu de culte habituel pour la messe de minuit.
Nadia Ben Mafoud, N'Djamena au Tchad et notre tour du monde des correspondants à retrouver sur RFI.fr. 8h51 à Paris. Et à l'approche de Noël, justement, l'Afrique en marche nous emmène cette semaine à Dakar, à la rencontre d'un fabricant de jouets spécifiquement sénégalais et africain. Pour la hôte du Père Noël, Africa Kid propose toute une gamme de jeux ludiques et éducatifs aux enfants et aux écoles du Sénégal. Frédéric Gara.
Alors que l'on chante et que l'on célèbre Noël au Sénégal, comme ici, chez les moines de Cœur Moussa, pendant ce temps-là, dans les ateliers de Wakam à Dakar, eh bien on s'active. On y coupe, on y ponce, on y vernit les jouets en bois d'Africa Kid. Il s'agit d'une marque de jeux ludiques et éducatifs que le franco-suisse Patrick Jacquier a conçu depuis une dizaine d'années à Dakar.
On a au moins une quinzaine de modèles de memory, C'est ce jeu qui a comme objectif de faire des paires entre deux pièces qui ont un lien évident et qui permettent d'associer le chiffre avec l'écriture du chiffre, le chiffre dans une langue avec une autre langue, un drapeau avec un pays, des choses comme ça. Donc, la mémoire est quelque chose de très, très puissant comme jeu éducatif. Donc les éléments importants, en fait, c'est la fabrication 100% d'acabe. Tous les produits sont naturels. La plupart de nos plateaux sont recouverts de tenkese, qui est une huile végétale qui vient de Casamance. Donc on essaye vraiment d'assumer le fait d'être local. Et puis le fait que ça vient de la tradition aussi sénégalaise, Wolof, depuis quelques siècles.
Patrick Jacquier a imaginé des jeux de mémoire, de calcul, de géographie en Wolof, en français, en sérère ou en langue bambara. Des jeux auxquels ont souscrit plusieurs établissements scolaires de Dakar, comme l'école franco-sénégalaise dirigée par Cécile Chauvel.
Moi, j'étais en recherche de quelqu'un qui serait en capacité de me fabriquer notamment du matériel de manipulation mathématique. L'approche qu'avait Patrick, notamment avec le bois, le fait qu'il fasse travailler des femmes, que ce soit fait localement, ça, c'est aussi des critères qui correspondent aux souhaits, en fait, en termes de développement durable de l'établissement. Et puis, il a accepté, en fait, derrière de faire des prototypes par rapport à des modèles que je souhaitais pouvoir faire fabriquer, et on a pu vraiment travailler ensemble sur l'élaboration des modèles. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Puis l'année dernière, donc, on a fait une grosse commande de matériel de numération, et c'est un matériel qu'on n'avait pas forcément de manière assez présente dans l'école pour développer la manipulation. Et le fait de pouvoir avoir accès à du matériel en bois, ce qui change du matériel plastique qu'on peut commander assez facilement, et que ce soit fait localement, c'est vrai qu'au niveau développement durable, c'était un point qui nous intéressait particulièrement. Donc on a été équipés comme ça, et c'est vrai qu'on en est très contents.
Et ils sont d'autant plus contents, les enseignants et les enfants, que la finition des jeux est particulièrement soignée. Pour cela, Africa Kid a fait appel au talent de menuisier dakarois expérimenté comme Oumar Diallo. Il a son atelier à Wakam, Cité Avion.
Si tu fais les menuiseries, ça demande de la précision, de la finition. Et donc, d'après ce que Patrick veut aussi, ça demande beaucoup de précision parce que c'est du bois qu'on fabrique en millimètres. Il y a différents jeux, il y a le yoté, il y en a tellement. Parce que lui, vraiment, il est très inspiré, quoi. Parce que ça développe l'esprit des enfants. Parce que ça demande de la réflexion, quoi. Voilà.
Et pour développer l'esprit des jeunes et de l'ensemble des Sénégalais attachés à leur culture, Patrick Jacquier a remis au goût du jour un jeu typique, le yoté. Un jeu de plateau qui rappelle le jeu de go ou le jeu de dames. Patrick Jacquier.
Donc c'est d'abord un jeu de positionnement. Et après, c'est une stratégie de prise qui est intéressante et qui a quelques spécificités. Mais ce support au niveau de l'oralité, donc bien connu en Afrique, est important par rapport à l'histoire du yoté. On prend les pions de l'adversaire. Et donc, tout simplement, c'est comme un jeu de dames. Voilà, c'est tout.
Jouer en apprenant ou bien s'éduquer en s'amusant, les jeux d'Africa Kid ont encore le temps d'arriver d'ici mardi au pied du sapin ou du baobab de Noël.
Des moines de l'abbaye de Cœur Moussa au Sénégal dans cette Afrique en marche. Spécial Noël, signé Frédéric Garin. Bientôt 8h en temps universel, RFI Matin touche à sa fin. Avant le prochain journal, 100% création et la suite de la série que Maria Afonso vous propose à la découverte des métiers des rebâtisseurs de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les compagnons, artisans d'art, designers qui ont travaillé sur ce chantier emblématique. Et aujourd'hui, Régis Mathieu, lustrier en charge de la rénovation des lustres, vous l'aurez compris, de Notre-Dame.
Le mot lustrier, quand je le dis pour la première fois, les gens me regardent bizarre en disant « c'est quoi ce métier ?» alors que tout le monde sait ce que c'est un lustre.
Régis Mathieu, lustrier.
Je laisse cours à mon côté artistique et je crée comme ça un pendant à ma collection de lustres qui m'est personnel dans le choix et dans l'œil, si vous voulez, mais aussi qui raconte une histoire.
Régis Mathieu est originaire de Marseille. Sa famille est dans les luminaires, haut de gamme, contemporain. Il suit des études en école de commerce et en même temps son apprentissage du métier dès l'âge de 20 ans. Après le décès de son père, sa mère reprend l'entreprise. À la fin de ses études de commerce, c'est à son tour. Il repositionne alors l'entreprise pour que le lustre soit un objet de luxe, à la croisée de l'artisanat et de l'esthétique contemporaine. L'engagement de Régis Mathieu est profond pour la sauvegarde du patrimoine, avec des projets publics comme celui de Notre-Dame de Paris.
Une fois qu'on avait tout nettoyé, il restait des traces de jaune, des traces de marron, de noir. C'était assez élégant. Pourquoi pas garder les lustres comme ça? C'est la patine du temps. Donc on fait un essai, on restaure un lustre, on met des bougies, on l'emmène à la cathédrale, on fait un essai. Là, ça a duré 10 secondes. Waouh, le lustre, la cathédrale l'a rejeté. Il était vraiment pas beau. On s'est dit non, c'était pas une bonne idée. Donc je dis, un des lustres qui est le plus abîmé, si vous voulez, je le refais neuf, que l'on voit comment c'était quand ça avait été livré. On fait un lustre tout neuf, qu'on trouve quasiment clinquant à la lustrerie. Mais c'est ça, hein, c'était le travail de Viollet-le-Duc, c'est bruni, c'est brillant, il y a des parties qui sont volontairement clinquantes, et c'était le souhait de l'architecte. Et puis dessus, des feuilles qui sont plus mates pour créer des volumes. Et ce lustre, on l'emmène à la cathédrale, et alors ça nous a fait l'effet inverse. Là, on est resté une heure à le regarder, parce qu'on s'est dit, waouh, c'est... ça va vraiment bien, quoi, c'est ça.
La reconstruction de Notre-Dame de Paris n'aurait pas été possible sans les métiers d'art et leur savoir-faire. Et pour Régis Mathieu, c'est un chantier à part dans son parcours.
Là, on s'est aperçu que sans les métiers d'art, sans ces savoir-faire, ces corporations, on n'aurait peut-être pas été capable de reproduire Notre-Dame. Et il y aurait un parking aujourd'hui de 5 étages à la place de Notre-Dame. Et donc, merci à tous ceux qui ont travaillé dessus. Toute cette équipe merveilleuse qui travaille sur ce chantier. À la lustrerie, personne n'a soufflé pour faire quelque chose sur les lustres de Notre-Dame et c'était compliqué, mais tout était très 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 différent. Je pense même que dans les métiers d'art, il y aura avant et après Notre-Dame.
Retrouvez l'univers de Régis Mathieu sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour 100% création. Et c'est ainsi qu'RFI Matin se termine pour aujourd'hui. Je remercie Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures. Une fois n'est pas coutume, je vous dis à demain à partir de 6 heures, temps universel. Et d'ici là, très bon dimanche à l'écoute de la Radio du Monde.
RFI à Pointe-Aux-Cel, 103.2 FM.
Après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, RFI s'associe à la Croix-Rouge française qui lance un appel à dons pour soutenir la population touchée par la catastrophe d'une ampleur immense. Dans l'immédiat, la priorité pour aider les victimes est d'apporter de l'eau, de la nourriture, des produits d'hygiène et du matériel pour construire des abris. Chaque don compte. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Pour aider les volontaires de la Croix-Rouge sur place, faites un don sur croix-rouge.fr.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
J'ai copié notre double casquette pour une famille de dummies qui redoutent de crash test.
Amateur de hip-hop, de poésie et de second degré, cette émission est faite pour vous. Le rappeur français Hippo Kung Fu est dans BPM La Rencontre.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Non mais je comprends rien à la carte là.
Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Attention.